RMC, cours numéro 1.
You cannot be serious! That ball was on the line!
Ça sort, c'est fini! La France remporte la Coupe des Villes! Allons!
Eric Salio.
Bienvenue sur cours numéro 1. Une fois de plus, je suis un heureux lucky loser puisqu'Anthony Reich a pris un peu de repos. Je vais donc me transformer en animateur. Au passage, un grand merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à télécharger tous nos épisodes sur les différentes plateformes. J'accueille notre consultante préférée, Sarah Pitkowski, qui a commencé à jouer avec du fil de pêche. Salut Sarah.
Salut Eric, c'est pas sympa.
Vous allez comprendre pourquoi je fais cette petite allusion. Alors que le Tour de Madrid débute à peine, on a voulu prendre un petit contre-pied, vous nous connaissez, et vous emmener dans un monde à part, celui des cordeurs. Sans eux, les stars du jeu seraient totalement démunies. C'est un métier exigeant, stressant. On va en parler pendant une grosse demi-heure. C'est parti pour cours numéro 1. Alors, pour évoquer ce métier si particulier, j'ai la chance d'avoir deux invités. J'ai envie de les appeler les Rolls Royce de la machine à corder. Il est en studio avec nous. On le remercie. Salut Maxime Boulanger.
Salut Eric.
Et puis, de sa compagne auvergnate, on a Stéphane Kranowski qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut Stéphane.
Salut Eric, salut tout le monde.
Alors pour
bonjour,
ceux qui ont,
messieurs.
Pour ceux qui ont eu la chance d'aller faire un tour au Rolex Monte Carlo Masters, ils se trouvaient, nos deux invités, en première ligne dans leur petit stand, loin du village. Et je crois qu'ils ont kiffé leur semaine parce que les spectateurs, j'ai l'impression, vous sollicitez beaucoup. Hein. Ils sont avides de tuyaux, de conseils, c'est ça Maxime? C'est pas une semaine comme une autre, Monte Carlo. Hein.
Non, Monte Carlo, c'est un tournoi déjà exceptionnel. Hein. C'est l'un des plus beaux cadres sur le circuit. Et on a un très beau stand avec Technifib, donc en fait on est mis en évidence et le public a la chance de pouvoir nous voir corder les raquettes des plus grands joueurs du monde.
Bon Stéphane, pour mieux vous connaître, j'ai envie d'avoir un petit CV là. Comment vous êtes arrivé cordeur professionnel? Parce que c'est pas un métier qu'on apprend au lycée quoi. Hein.
Non, tout à fait. C'était pas un métier à la base, hein. Effectivement. C'était une petite passion déjà en club de corder quelques raquettes. Ensuite, commencé en parallèle de mes études, j'ai travaillé dans un magasin de sport où j'ai vraiment appris le métier de cordeur, mais de magasin. Et par la suite, bien sûr, j'ai eu la chance de corder sur Roland-Garros. À l'époque où on était des bénévoles, on nous demandait si on était disponible pour aller corder. Et là, tout de suite, j'ai eu la fibre, en fait. La fibre pour ce métier-là. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que je suis cordeur professionnel.
Max, toi, attends Sarah, je laisse présenter Max parce que lui, il a une histoire plus particulière avec la petite balle jaune. Hein.
Ouais, moi j'ai une histoire plus particulière en fait, c'est-à-dire que moi tout d'abord j'ai été ramasseur de balles à Roland-Garros en 95-96. Donc j'ai eu la chance de pouvoir déjà mettre mon empreinte sur le cours central à l'époque de Thomas Muster et de Michael Chang. Donc ça a été des rêves d'enfant exaucés. Et puis ensuite en reconversion, la même passion que Stéphane, c'est-à-dire la raquette. J'ai commencé à corder en magasin, puis comme je voulais côtoyer le plus haut niveau, j'ai réussi à intégrer l'équipe Technifib pour corder à Roland-Garros.
Sarah.
Alors moi, j'ai deux questions pour vous, messieurs. Est-ce que pour être un bon cordeur, il faut avoir joué au tennis? Ça, c'est la première. Et la deuxième, est-ce que vous savez, à l'heure où on se parle, combien de raquettes vous avez cordées?
Alors,
vous mettez des petites croix, vous notez
Déjà, tout d'abord, oui, il y a la passion du tennis, de toute façon. J'ai eu, moi, un niveau, troisième série, j'ai été 15-2 au maximum. Je venais aussi à la base d'un autre sport, donc très sportif, du foot, pas mal du ski aussi, beaucoup de sport. Et après, le matériel, j'ai tout de suite, il y a le côté vraiment matériel qui m'a intéressé. Donc voilà pour ça. Et le nombre de raquettes, à un moment j'ai voulu compter une année, je me suis dit au mois de janvier je vais commencer à compter, après je pourrais me dire après au bout de 10 ans, voilà ça fait à peu près approximativement tant de raquettes. Mais c'est plus de 50 000 raquettes, même plus je pense encore, c'est un peu aléatoire quoi. Mais beaucoup.
Max ?
Moi sur la question pour être un bon cordeur, je pense que déjà d'avoir été joueur, d'avoir la sensation de balle, c'est aussi intéressant. Parce que moi, j'ai fait des tournois, donc j'ai connu la compète. Donc quand j'étais petit, mes parents, ils avaient un budget. Donc quand on cassait les cordes assez rapidement, il fallait trouver des solutions. Et puis ensuite, surtout être un bon cordeur, c'est surtout être à l'écoute. déjà pour nous, d'être à l'écoute des joueurs professionnels et de répondre à leurs attentes en fait.
Ouais. Vous avez un statut d'indépendant, c'est ça, mais quand vous êtes sur une semaine à Monte-Carlo, c'est des horaires de fou, hein, on peut le dire. Vous êtes les premiers arrivés au stade et parfois les derniers partis.
On est souvent les premiers arrivés, les derniers partis, surtout en début de tournoi. On le sait, hein, c'est quand même assez intense. D'ailleurs, moi je le dis souvent, mais il faut quand même avoir une condition physique, aussi mentale. Il faut être rigoureux, il faut être patient, il faut être concentré. Il faut avoir un état d'esprit aussi d'équipe, parce que par moment on peut être dans le rush. Donc il faut contrôler ses nerfs. Et puis maintenant, avec Stéphane, on a quand même l'expérience. On a plus de 20 ans de métier, donc on arrive à gérer la pression en fait.
Ouais. En plus, tu parlais de Monte-Carlo. Monte-Carlo, c'est quand même aussi un petit peu un tournoi à part. Parce qu'en fait, c'est à la fois un marathon sur une journée où voilà, l'amplitude horaire peut être, on peut faire plus de 14-15 heures par jour. Et à la fois, il y a des côtés de sprint, en fait, quand on est avec les équipes, parce qu'on a beaucoup ce qu'on appelle de raquettes en express, de matchs en cours.
Ça, c'est intéressant. Voilà. Faut que tu nous expliques ce que c'est que l'express.
Donc, il y a des ordres de priorité.
Oui, il y a des ordres de priorité.
Des cordeurs spécifiques qui sont là, je veux dire, des cordeurs toujours libres pour les raquettes qui arrivent et qui doivent être cordées en 15 minutes.
Oui, tout à fait. Ça, c'est une organisation qu'on essaye de mettre en place et d'avoir même un exemple simple. Quand on a une paire de doubles, par exemple, on ne donne pas les deux mêmes joueurs au même cordeur, en fait. Donc, il y a une redistribution, une distribution des joueurs. Et aussi, ben, quand les matchs commencent, voilà, on sait qu'à Monte-Carlo, on va avoir des matchs en cours. Donc, et une autre particularité sur Monte-Carlo, on a eu le cas avec, j'ai eu la chance de le corder, mais on fait ça depuis 2 ans, c'est Sacha Zverev, Alexander Zverev, où lui veut que ses raquettes soient cordées 20 minutes avant le début du match, il nous laisse une raquette vacante qu'on garde. Et le papa nous envoie les infos ou l'arbitre sur le terrain pour nous dire « Tenez, cette raquette-là, il la veut à 19.1, 20.1 kilogrammes et 100 grammes derrière. Et pour pour le changement de balle. » Donc cela nous laisse 7 jeux, par exemple, au début du match et après le 9 jeux, ainsi de suite.
Il y a quand même une sacrée pression.
Petite anecdote, je vais vous raconter une anecdote, parce que là, en fait, tu es en train de dire 19.1. Alors, il y a 25 ans, quand je jouais, on disait je veux ma raquette à 22, à 24, à 26, mais il n'y avait pas cette précision de la virgule derrière, en fait. Et pour vous donner une idée, j'ai joué un tournoi à l'époque en Yougoslavie, et donc je donne ma raquette à cordée. Et au moment de frapper, mais la balle, elle reste jamais dans le court. Je comprends pas ce qui se passe. Je regarde mon cordage, ils avaient mis 2 cordes en dessous, 2 cordes au-dessus, au milieu.
Oh punaise, ah oui.
Et donc
oui.
En fait, le temps que je m'en rende compte, tu comprenais pas, la balle, elle partait dans le... Donc, et à l'époque, les cordeurs, et même à Roland-Garros, je sais pas si vous avez connu le temps où vous étiez sous le court numéro 1, dans le noir toute la journée...
Bien sûr.
En tout cas, le système de cordage, c'était dans les sous-sols des grands chelems aujourd'hui, au même titre que Monte-Carlo. Vous faites partie du décorum, on aime bien vous mettre en valeur, montrer ce qui se passe en fait, parce que vous êtes l'envers du décor de la performance.
C'est un métier qui est beaucoup plus valorisé qu'à l'époque. On est beaucoup surtout plus mis en valeur, exactement, parce que...
Ça en est devenu un métier, c'est ça.
Parce qu'en fait, les joueurs, c'est toujours pareil. Quand le joueur... quand il gagne le tournoi, il est satisfait. Je vais prendre l'exemple de Nadal, à Monte-Carlo. Nadal, il a gagné 11 fois Monte-Carlo. À chaque fois, il venait saluer l'équipe le matin et même quand il gagnait le tournoi. Par contre, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc, si on se trompe sur une tension, le joueur, il peut venir aussi se plaindre.
C'est ce que dit Max. Aujourd'hui, par rapport à Sarah, tu as raison. C'est qu'avant, on était... moi, quand j'ai eu la chance de monter à Roland-Garros, en fait, j'avais des cordeurs qui venaient de magasin. Ils restaient 3 jours, en fait. C'était presque pour les remercier commercialement avec les magasins et tout ça, des actions commerciales, qu'aujourd'hui, en fait, on est professionnel. Avant, on était amateur. Donc, je me rappelle les premières années sur Roland, quand je voyais des fois des cordeurs, je me disais, mais il ne s'est pas cordé, en fait, lui. En fait, il était venu juste comme ça, comme tu racontes ton histoire, tu vois, en Yougoslavie. C'était... voilà, c'était de l'amateurisme. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous, on est professionnels. Donc, du coup, on est mis en avant. Donc, on se doit d'avoir un niveau De professionnalisme au maximum, quoi. On est sans filet
très
aussi.
Très pointu dans ce qu'on tire, que vous êtes professionnel, donc on vous demande des choses très pointues et votre réponse doit être aussi très performante en fait.
Exactement, parce que nous, comme tu dis, le résultat, on l'a tout de suite en fait. Si on prend des coureurs de magasin, des fois, on compte la raquette. Là, je suis revenu chez moi à Clermont, j'ai retravaillé avec mon ami au magasin. Et voilà, j'ai coordé des raquettes hier pour dimanche, pour les matchs par équipe. Donc le résultat, est-ce qu'elle sera bien faite, pas bien faite? Je veux dire, quand on coordonne la raquette de Zverev 20 minutes avant qu'on lui emmène sur le terrain, en main propre, voilà, si c'est mal fait, j'ai un coup de fil du juge-arbitre, en deux secondes, et il y a un problème, quoi. Donc voilà, nous on se doit d'être exigeants, et les joueurs le sont de plus en plus, et nous on répond à leurs demandes en fait.
Et juste... On comprend même qu'il y a des staffs qui, enfin, ou des joueurs qui ont leur propre cordeur. Hein. Aujourd'hui, c'est pas.
Bien sûr.
C'est pas aussi rare que ça. À l'époque, c'était inenvisageable. Mais aujourd'hui, il y a des joueurs qui préfèrent avoir leur cordeur avec eux. Hein.
C'est une question de moyens aussi.
Oui, forcément.
Sampras avait son cordeur, c'est ça, qui restait tout le temps à l'hôtel, c'est ça.
Sampras avait à l'époque Nate Ferguson, donc une société américaine, et Nate Ferguson a accordé Sampras à Agassi, puis après il a accordé Federer par exemple.
Bah en fait c'est parti de Sampras effectivement, mais après Sampras lui tu sais il jouait encore en boyau, c'est assez compliqué.
Si tu arrives avec la pro staff,
pendant 40 kilos, oh. Donc c'était compliqué. Donc s'il arrivait dans des services cordage ou comme on disait, moi je te parle de ça d'un temps où il y a 30 ans, tu vois déjà, donc Sampras c'est encore, voilà, c'est un peu avant, donc le service cordage qui n'était pas professionnel. Donc, maintenant, aujourd'hui, on l'a vu même sur Monaco, sur Miami, on a quelques joueurs qui sont en privé, mais il y en a beaucoup moins, parce que tous les services cordage sur les Master 1000, sur les ATP 1000, pardon, et sur les Grands Chelem, maintenant, on a des services cordage des vrais professionnels, que ce soit toutes les marques. Nous, Technifi, bon, on avait Miami, la Monte Carlo et d'autres. On a fait Roland-Garros pendant des années. Paris-Bercy à l'époque. Donc voilà, il y a d'autres marques qui sont pareilles, qui sont très professionnelles maintenant. Donc du coup, les cordeurs privés sont un petit peu moins présents.
Et on a une équipe aussi internationale. C'est-à-dire que nous, par exemple, sur Monte-Carlo ou Miami, ou même Rotterdam, dans l'équipe, il y a un Italien, il y a des Espagnols, des Américains, des Hollandais.
Japonais.
Brésilien. Donc en fait, pour aussi les joueurs, Marcelo Melo, par exemple... il est content de se faire corder la raquette par un Brésilien. Les Italiens sont contents de se faire corder la raquette par un Italien parce qu'il y a aussi les affinités, des liens, il y a aussi de la confiance. Et ça, pour les joueurs, c'est super important aussi maintenant.
L'évolution du matos, les gars, parce que je vous ai vu avec votre machine, c'est une machine de guerre, quoi. Ça a vraiment beaucoup évolué ces dernières années. Et qu'est-ce que vous en faites? Vous la transportez comment? C'est un truc qui vous appartient à l'année, à vie?
Bah ça, en fait, les machines, elles sont stockées dans une usine. Et puis à chaque tournoi, bah, justement, on remonte les machines. Après, il faut savoir que oui, les machines, maintenant, elles sont quand même au kilo, au gramme près. Mais il faut surtout pas oublier que le passage de corde et le plan de cordage, ce sont toujours les cordeurs. C'est-à-dire que la machine amène la précision, mais le cordeur, il n'a pas le droit de se tromper sur le plan de cordage. On n'a pas le droit de louper un travers. On n'a pas le droit de faire un pont. On n'a pas le droit de... Voilà. Donc, ça reste encore nos yeux et nos doigts où c'est super important parce qu'on doit être vraiment concentré. Et donc, la machine, oui, elle tend et nous, on fait le reste. Hein.
Ouais, c'est sûr que ça a bien évolué par rapport au début avec les machines manuelles, là où on était précis, mais pas précis, quoi. Je veux dire, là, aujourd'hui, nous, quand on est sur un tournoi et principalement à l'extérieur, tous les matins, on vérifie la tension de la machine, voir si elle a bougé ou pas bougé dans la nuit, des fois, et ainsi de suite. Donc, on est vraiment... Parce que tu parles de la précision, là, Eric, je reviens avec l'histoire de Zverev. Moi, Zverev, quand il était en période d'entraînement, avant qu'il commence le tournoi, sache qu'il avait déjà fait corder 40 raquettes à Monte-Carlo. Ouais, 40. Avant de jouer son premier match. Donc, en fait, il était à 20.8... 19.8, pardon, 20.8. Alors, quand je dis 19.8, c'est 19,8 kg sur les montants, avec un cordage en polyester. Et 20.8, c'était sur les travers, avec un cordage en boyau naturel. Donc, une corde qui est beaucoup plus souple, donc qui tend un petit peu plus.
Et moi, je vais donner un autre exemple. Daniil Medvedev, l'an dernier, d'ailleurs, je crois que c'était Stéphane qui le cordait, il était passé avec du boyau et donc du monofilament. Et Daniel, nous, on l'a connu, il tendait ses raquettes à 21-22, puis d'un seul coup, il est monté à 27-28. Et Stéphane, il se tapait des séries de 10 raquettes avec des tensions différentes. Et ça n'a pas forcément marché pour lui, en fait, pour Daniel. Et à la fin du compte, il est revenu à ses premiers amours, donc 100% monofilament. Et là, cette année, on l'a accordé à
Monte-Carlo. Cette année, ça n'a pas très bien marché. Il a pris 0-0 à voilà. 2 kilos.
Mais bon, il était à 18,5-19,5. Donc, il y a quand même 10 kilos d'écart.
Ouais, mais là, il est... Ouais.
Mais donc, faut dire aussi qu'il y a des joueurs qui sont un peu perdus. Hein. Les réglages, il y a des joueurs qui sont un peu perdus. Je prends l'exemple de Nadal. Nadal, pendant 15 ans, l'accordait à Bercy, à Monte-Carlo, à Londres. C'était 25 kilos à l'intérieur comme en extérieur. Hein.
Ça bougeait pas.
Ça bougeait pas, quoi. C'était à lui de se régler, de faire le travail, et voilà.
Mais par exemple, Medvedev...
Qui corde le moins. On sait que Manarino, il a quasiment un filet à pêche.
C'est ça.
Tu vois, on n'a pas attendu Eric 25 ans pour jouer avec une raquette de filet à pêche. Est-ce que c'est toujours lui qui a la tension la plus basse?
Oui, c'est toujours lui. Ouais. Là, il était cette année à Monte Carlo, il était à 9,5, je crois.
Non,
je ne me trompe pas, Mike. Une année, je l'avais fait à 8,5. Mais ça surprend, c'est marrant, parce que ça surprend même tous les joueurs, les coachs qui passent et qui voient que c'est la raquette de Manarino.
Je ne sais même pas comment il fait pour que la balle passe de l'autre côté du filet. C'est une énigme. Hein.
Ah oui, non, mais on est d'accord. Moi, souvent, je dis que c'est un petit peu un funambule, quoi. Hein, parce qu'il faut prendre la balle au bon moment, tôt devant. Mais bon, voilà, moi, je sais pas comment, j'ai pas la technicité, mais quand je...
Il faut avoir un œil extraordinaire.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et bien prendre la balle devant aussi, quoi. Et quand on le voit avec sa geste...
Ah, oui.
Sa gestuelle particulière. Oui.
Et surtout quand tu sais que Mana il a 8,5 et que t'as peut-être le numéro 1 mondial qui a 20 kilos de plus. Quoi.
Ouais, Sinner, il est à 28. Ouais.
Mm. Ah, ça m'a étonné, ça. Sinner à 28, ça m'a étonné.
Donc c'est ça qui est fou en fait maintenant avec les raquettes, les cordages, l'évolution. C'est, chaque joueur est quand même assez différent en fait.
Mais on est sur des basses tensions quand même.
Il y avait aussi une autre chose que Sampras faisait beaucoup. Mm. Oui. Federer aussi, je crois, c'est qu'il les mettait dans les frigos quand ils arrivaient, elles étaient sous blister.
Bien sûr.
Et on mettait les raquettes dans les gros frigos qui étaient sur les terrains.
Je me rappelle à Roland,
pour pas qu'on perde en kilos. Mais à la vitesse à laquelle vous cordez aujourd'hui, il n'y a presque plus besoin de faire ça, puisque s'il y a un ajustement à faire, vous le faites, j'ai envie de dire, en un claquement de doigts, quoi.
Exactement, nous en fait, quand les raquettes arrivent, je prends l'exemple, quand Maxime cordait Nadal là, sur Monte Carlo ou sur d'autres tournois, à chaque fois, par exemple, Nadal, au changement de balle, donc du coup, il change sa raquette, et voilà, il aimait bien, disons, envoyer sa raquette au service cordage, et il reprenait, alors il commençait par un numéro, souvent il prenait la 5 pour commencer le match, j'avais entendu dire ça, et nous on le voyait, on vérifiait, et il reprenait la 2 derrière, et nous, en moins de 15 minutes, en fait, voilà, donc ça fait l'équivalent de 3 jeux à peu près, 3-4 jeux, tout dépend. Et elle revenait sur le terrain, donc voilà. Avant, ils n'avaient peut-être pas cette possibilité-là, donc du coup, ils mettaient la raquette au frais.
Donc ils avaient une raquette favorite, quoi.
Et puis Sampras, à l'époque, il jouait beaucoup aussi avec du boyau, quand même. Hein.
Ouais, c'était ça.
Oui, il jouait, effectivement, qui a une imperméabilité aux conditions atmosphériques qui est beaucoup plus importante que les synthétiques d'aujourd'hui, quoi.
Les polyester,
multifilaments, quoi, ou le polyester. C'est...
Et là, on a fait un petit constat sur le tournoi de Miami, par exemple, et même un peu sur Monte Carlo, c'est que donc, l'hybride, donc le fameux cordage en monofilament et boyau, on en fait quand même de moins en moins. On corde beaucoup de monofilaments maintenant.
Est-ce qu'il y a de l'espionnage, messieurs? Entre joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui viennent vous voir en disant qu'est-ce qu'il met, dis-moi, je veux tout savoir. Est-ce qu'il y a des mecs qui ne veulent pas qu'on regarde comment leur raquette est cordée? Je crois que Steph, tu avais une anecdote avec Federer une année.
Ouais, alors, oui, bah, des fois quand il y a les raquettes qui sont un petit peu là, en black frame, en prototype. Ouais. Après, des fois, tu as les coachs qui viennent quand même, qui regardent un peu, qui font ça. Je dis, ouais, ça, c'est la raquette. Ils voient une nouveauté, ils sont toujours curieux. Mmh. Et oui, j'ai une anecdote. Moi, c'était en 2013 sur le tournoi d'Hochstadt avec Federer. Quand il a changé de matériel, justement, il avait grossi le tamis. Il était passé avec une raquette avec un tamis un petit peu plus grand. Donc, en fait, bah, Séverin Lutti, son coach, m'avait demandé si je pouvais déplacer une machine et la mettre dans une pièce fermée, en fait, où personne ne pouvait voir pour éviter justement cette... pour savoir à quelle raquette il joue, quelle raquette il teste, donc tout ça, quoi.
Ah oui.
Donc là, c'était un moment, effectivement, un peu, c'était mission secrète, quoi. Personne ne pouvait rentrer dans cette pièce. Je me fermais à l'intérieur, quoi.
Non.
Dès que ça frappait, j'éteignais la lumière et personne ne pouvait rentrer, en fait.
Et tu étais avec Roger.
Et après, ben voilà, après un moment, ben Séverin arrive et je lui dis, ouais, j'avais 6 raquettes à faire, donc je lui dis, ben, je suis sur la dernière, et il me dit, pas de problème, t'inquiète, on arrive. Et là, ben, Séverin était derrière la porte, après la porte s'ouvre et Séverin, Roger, Stéphane, le kiné aussi, arrivent tous les trois et ferment la porte et voilà, je me retrouve après avec Roger. Et même les deux sont partis un moment et lui, il était là tout seul devant moi, en train de mettre ses surgrippes, moi je finissais la dernière raquette. Et voilà, je me suis retrouvé avec Roger pendant un moment, on a échangé, on a parlé de... J'ai pas parlé de tennis parce que bon, c'était compliqué de lui dire ouais, t'es un beau revers, tu joues bien, bravo, ta carrière est belle. Donc non, on a parlé de vie de famille, de nos enfants, de choses, de ci, de là, et voilà quoi. Et c'était un super moment, un quart d'heure avant son match. Donc
alors, c'était. Vous avez accès à des moments comme ça totalement suspendus. Vous faites,
ouais.
vous avez le travail de fourmi, mais je de ce que vous racontez en fait. Le retour des petits mots des joueurs ou des coachs, ça doit être assez enthousiasmant en fait. Ça vaut la peine d'être vécu.
Ah non, mais c'est comme on dit souvent, nous, des fois, la reconnaissance, on l'a quand. Des fois, quand il n'y a pas de bruit, en fait, quand même la TP ne vient pas et tout ça. Et la reconnaissance, en simplement un merci, ils viennent nous voir, un petit truc, le coach. C'est pour nous, c'est génial, quoi. Je veux dire, c'est ce côté. Oui. Qu'on a travaillé depuis longtemps en professionnalisant ce service cordage, où là aujourd'hui ils sont reconnaissants. Alors nous, bon, la chance qu'on a avec Max, tout ça et tout, c'est de faire plusieurs tournois dans l'année. Moi, c'est mon métier à part entière aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on se revoit, on se dit, voilà, on garde des vrais contacts. Moi, j'ai des remerciements de coachs qui m'ont appelé. L'enfant était avec Max à l'aéroport. J'ai un coach qui m'envoie un vocal. Et lui, il était à Rouen avec sa joueuse, alors que moi, j'étais à Nice à l'aéroport. Il me dit, ah, voilà, il était super content, on avait passé un super moment à Miami, on avait résolu un petit problème qu'il avait. Bon. Donc voilà, donc c'est simple, quoi, c'est des bons moments.
Vous faites partie intégrante de la performance.
Ouais, pour moi, c'est très important maintenant, en plus, oui. Et puis, je vais donner une autre petite anecdote, c'est que l'an dernier, à Monte-Carlo, donc le stade était fermé, et il y a Novak qui était en train de se promener avec ses enfants. Et donc nous, il était 19h, 20h, on était en train de corder. Et j'étais en train de corder la raquette de Kekmanovic, donc son ami et son collègue de Coupe Davis serbe. Et Novak est venu nous rendre visite. Et là, il était avec ses enfants. Et il expliquait à ses enfants, il leur a dit, bah, regardez, parce que ce métier, c'est très important pour nous, les joueurs, donc de corder les raquettes. Et Novak, même à un moment, c'est devant moi, il s'excuse. Bah, je lui dis, non, Novak, c'est un honneur, ouais. C'est un honneur ta présence. Et puis, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à discuter avec lui. Je lui ai dit, je me rappelle d'un reportage de toi sur Intérieur Sport où tu montrais ton club en Serbie et tu montrais ton cordeur. Et justement, tu expliquais que c'était très important et que tu l'embêtais souvent. Et à ce moment-là, il m'a dit, bah, tu sais, moi, j'ai commencé à corder mes raquettes à 11 ans. Et voilà, et au fur et à mesure du temps, on passe un moment unique et un moment de partage. C'est des moments qui sont gravés à vie, ça, par exemple.
Mmh. Ouais,
même pour moi, pour l'équipe, pour tout le monde, parce que voilà, et puis la reconnaissance de notre travail, de voilà, c'est très important.
Alors, il y a un autre sujet que je voulais aborder, on en a parlé avec Eric avant de vous avoir dans ce podcast, c'est le cas Loïs Boisson, qui, on sait, donc a été éloigné des cours depuis septembre dernier pour des blessures successives. Et la dernière... Donc au coude, dont elle a révélé quelques petites brides de choses dans ses dernières interviews. Donc elle a dit qu'il y avait eu une erreur de diagnostic qui avait donc repoussé. Et il y a une petite ligne où elle parle de cordage. Et que peut-être ça aurait été son cordage à l'origine de cette douleur, peut-être mal diagnostiquée. Ça aussi, c'est important de dire que le cordage aujourd'hui peut être une source de blessures. Hein.
Ah oui, totalement. Non, le cordage, bon, la tension aussi, le cordage. Et on voit que les marques, justement, développent de plus en plus de cordage. Vu qu'on, quand on parle de cordage traumatisant, on parle de cordage polyester, hein, monofilament, ce qu'on appelle. Et donc, du coup, les marques s'orientent de plus en plus à faire des cordages soft, donc des cordages un petit peu plus souples. Soit les marques Technifi, bien sûr, Babola et tout, et consorts. Donc, sortent des cordages un petit peu plus souples parce que c'est tellement traumatisant En fait, le cordage n'absorbe rien en termes de vibration, il renvoie tout dans le bras du joueur, en fait. Donc, du coup, en créant des cordages soft, alors l'avantage qu'il y a, c'est, comme disait Maxime tout à l'heure, de corder en boyau, il y a un petit peu moins de joueurs qui jouent en boyau hybride, et souvent, c'est un peu la solution. Vraiment, quand on rentre dans le top 10, on a quand même encore beaucoup de joueurs qui jouent avec le en hybride boyau. Mais quand on descend, nous, sur les challengers, quand on arrive sur ces tournois-là ou ATP 250, on voit quand même beaucoup plus de polyester 100%. Et c'est un petit peu la problématique, quoi. Donc,
et le budget.
Ouais, et après, bon, après, il y a le budget, mais bon, je pense qu'une joueuse comme Loïse Boisson, je pense que voilà, il faut qu'après qu'elle se rapproche de son équipementier, voir un cordage, trouver un cordage assez un peu plus souple, créer un hybride peut-être, ou un multifilament avec un polyester, et voilà, trouver des solutions comme ça. Ouais.
Mais pour pour nos auditeurs qui nous écoutent, on va dire qu'il y a des passionnés de tennis, on va dire qu'ils sont troisième série. Qu'est-ce que vous conseillez? Vous conseillez vraiment les multifilaments pour pas les débutants, mais les mecs qui sont troisième série, ne pas faire comme les pros, quoi. Ça, ce serait suicidaire.
Un bon multifilament, bien cordé avec une jauge un peu épaisse pour quelqu'un qui veut avoir un peu de résistance, c'est très bien. Ouais. Après, il faut juste voir la fréquence de jeu et le nombre de fois qu'il joue dans la semaine. Mais oui, c'est vrai que le problème des monofilaments, ça a amené quand même beaucoup de blessures. Et ouais, aussi, dans le grand public, beaucoup de personnes pensent qu'il faut toujours corder sa raquette à 25-26 kilos. Alors que nous, sur le circuit, on a constaté que, eux, déjà, les joueurs baissent. Et il ne faut pas avoir peur de descendre à 22, 21 et même 20 kilos.
Sur des polyester, mais après, honnêtement, un joueur de club, après, bien sûr, on va nous dire, je casse. Mais il faut savoir qu'un polyester, à la base, c'est un cordage qui est fait pour jouer grand maximum 10 heures. Mm-hmm. Mais grand maximum. Moi, je vois des fois, quand je retourne dans mon magasin, et c'est là où des fois, on voit, la chance que j'ai, c'est que de voir le haut niveau et de voir le pro, il va jouer 10 jeux avec, et il va changer de cordage, et ainsi de suite. Le joueur amateur, il va te dire « Oh, moi, ça fait un an, mais c'est bien. » Mais c'est là où les blessures arrivent aussi, parce que aucune sensation. Par rapport, tu sais, le cordage polyester, le problème, c'est que, en fait, voilà, tout le monde garde trop longtemps son cordage polyester, en fait. Le cordage polyester, c'est fait pour 10 heures. Je prends l'exemple, Eric, je crois que tu m'as fait recorder une raquette à Monte Carlo.
Oui.
Merci, le résultat était là derrière.
Merci,
ouais. T'avais un cordage qui était tout détendu, toi, et depuis longtemps.
Ouais, ouais.
C'est vrai,
t'as raison.
Et j'espère que tu l'auras pas l'année. Tu changes avant l'année prochaine, vu que je t'ai dit.
Bien moqué de moi. Mais oui, t'as raison. Mais alors, j'ai tapé mes premières balles avec ce nouveau cordage, j'étais comme perdu, quoi. Je dis, mais j'avais plus de sensation. Bon, finalement, au bout d'une demi-heure, ça va mieux. Mais sur le coup, je dis, non, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a pris pour un pro. J'étais à deux doigts de la renvoyer, tu vois, en express. Mais tu as raison, c'est des erreurs de débutants de rester un an sans changer de cordage. Alors effectivement, c'est un petit budget, mais il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Faut savoir ce qu'on veut.
Et les pros, surtout maintenant, nous, c'est qu'ils n'attendent pas de casser les joueurs. Sûr, c'est à la perte de tension, ils changent de raquette.
Ouais.
Et souvent, maintenant, les raquettes, elles arrivent, elles ne sont pas forcément cassées.
Et les cordages sont à leurs frais, on est d'accord, hein, sur les tournois.
Les pauses.
Alors, oui, parce qu'ils viennent avec leur bobine.
Cordage, le service,
bien sûr. Ils viennent avec leur bobine.
Voilà, nous, on offre un service de cordage. Exactement, on offre un service de cordage et après les pros viennent avec leur matériel, leur raquette et leur cordage.
Et votre prize money, il est bon les gars? Vous êtes contents de votre train de vie?
Bien sûr, sinon on aurait déjà arrêté. Mais non, nous on a de la chance de voyager dans le monde entier. Donc quand on voyage à Miami, Washington, Stade, Las Vegas, Londres, c'est un plaisir. Et puis surtout, la passion est de pouvoir toujours côtoyer le haut niveau, quoi, les plus grandes stars.
Mais Stéphane, il n'y a pas d'école de pose de cordage, on apprend sur le tas. Il faut vraiment tomber sur quelqu'un qui a envie de vous former.
Alors oui, non, il n'y a pas d'école pour commencer, comme un apprentissage, par exemple, des choses comme ça. Après, il existe des écoles de perfectionnement. Mmh. Au sein d'associations de cordeurs, donc beaucoup aux États-Unis, il y en a aussi en Europe et tout. Voilà. Après, il y avait aussi à l'époque, je me rappelle, que j'ai connu, qui m'a mis aussi là-dedans, c'était une personne comme Jean-Jacques Poupon, que j'ai connu, où lui, justement, par le biais de la société Babola, il faisait des formations, des choses comme ça, où on avait un petit perfectionnement grâce à lui, et qui nous expliquait un peu toutes ces anecdotes, des petites techniques, des petites choses comme ça. Mais il n'y a pas d'école vraiment d'apprentissage de cordage.
Et c'est vrai qu'on a eu la chance de côtoyer ces anciens grands cordeurs, qui aussi nous ont donné l'envie de continuer et nous ont toujours donné des conseils.
Ouais, parce qu'ils ont leurs petits secrets, quoi, j'imagine.
Exactement.
Bon, vous avez jamais raté une raquette, les gars ? Franchement.
Tant que j'ai pas un joueur qui est venu se plaindre concernant mon
travail,
tout va bien.
On a l'antenne ?
Non, non, pour
l'instant, ça va.
Ouais, non, en direct, faut y aller.
Je touche du bois, mais non, non, pour l'instant, non, ça va.
Non, alors, ce qui nous est arrivé, moi, c'est m'arrivé, je ne cache pas, hein, ça peut arriver. Comme je dis souvent le truc, c'est que des fois, je dis au cordeur, je dis, les gars, l'erreur, elle est quand elle est dans la raquette est dans la main du joueur. Nous, des fois, ça nous arrive dans le service de cordage. Le cordeur, il donne ça. Des fois, on se vérifie entre nous énormément. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en fait, il faut avoir quand même des doutes. Parce que trop de certitudes fait que, ouais. Non, mais c'est bon, c'est ma millième raquette, je sais corder, tout ça et tout. Comme on dit, le tournoi, pour nous, il est réussi quand la dernière raquette est sur le terrain, le joueur est en train de jouer, qu'on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Parce qu'on peut faire, comme à Monaco, Monte-Carlo, faire 1200 raquettes, 1250 raquettes, mais la 1251e, si elle est ratée, notre tournoi est raté, quoi, en fait. Parce que moins on arrive à la fin, moins il y a de travail, mais par contre, moins il y a de raquettes à corder, mais par contre, elles sont plus importantes que tout au début, même si elles sont tout au début aussi importantes. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est... Donc on essaye, on se vérifie,
en fait. Plus ça avance, plus le joueur a un enjeu qui est différent dans le tournoi.
Exactement. Mais bon, au début aussi, c'est quand même important pour... parce que c'est un statut de joueur qui est différent, donc pour lui c'est aussi important. Donc on se doit la même exigence au début qu'à la fin. Mais à la fin, nous, le cordeur, on est un peu usé au bout des fois 3 semaines de tournoi, comme sur Miami ou des grands chelems. Et on a moins de raquettes, mais des fois on fait un peu moins attention. Mais par contre, ces raquettes-là, elles sont... Là, c'est vraiment... Donc... Non, on ne fait pas trop, il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur.
Puis après, ce que Steph disait tout à l'heure par rapport à Zverev, où il voulait les raquettes quasiment 20 minutes avant le match, il y a aussi des joueurs qui souhaitent que leurs raquettes soient cordées la veille.
C'est quoi la différence ?
C'est eux, c'est leur sensation, ils préfèrent. Cette année, j'ai cordé Urquaz à Miami, ils souhaitaient que ces 4 raquettes soient cordées la veille, même s'il y avait du boyau, par exemple.
Ah oui.
Arthur Hinderknecht, que je connais depuis tout petit, c'est toujours moi, parce que on s'apprécie très bien, c'est toujours moi qui le corde. Et il sait qu'il me demande, il me dit « Max, tu peux me corder mes raquettes tous les soirs ?» Donc tous les soirs, je lui corde ses raquettes. Donc chaque joueur est différent.
Après, je pense que le joueur de tennis est aussi un petit peu superstitieux et qu'il a besoin de ses routines pour rentrer dans une concentration maximale, en fait. Hein. Évidemment, il doit y avoir des choix, mais je pense aussi qu'il y a forcément un peu de superstition.
Non mais Sarah, t'as tout à fait raison, moi ça nous est arrivé des fois sur des tournois où malheureusement on n'a pas pu respecter le choix du joueur parce que, par exemple, si tous les joueurs veulent être cordés le matin et qu'on se retrouve en...
Oui, on a compris qui voulait dire le matin, Stéphane, donc oui, parfois c'est pas possible de répondre à toutes les exigences des joueurs.
C'est assez compliqué, ou alors il faut se lever à 4h du mat. Oui, voilà.
Donc en fait, vous leur dites, c'est bon, ça a été fait ce matin, alors que vous l'avez fait...
Non. Généralement, on respecte quand même tout ce que les joueurs nous demandent. On peut pas faire n'importe quoi, parce que beaucoup quand même, ils sentent vraiment la différence.
Ouais.
Et c'est là où on voit que c'est un instrument de musique, hein, la raquette. Hein. Le cordage, c'est le moteur.
Oui, la comparaison est tout à fait juste. C'est un instrument de musique.
Exactement. C'est le moteur. Donc, s'il est habitué à se faire corder la raquette le soir et que tu l'as fait le matin à la fraîche, il va sentir une différence.
Il va le sentir.
C'est dingue. Non, mais ce qui est dingue, ça joue à quelques heures et tu es convaincu que c'est la vérité.
Bien sûr. Les gars, ils tapent tous les jours. Ils jouent tous les jours. Ils s'entraînent tous les jours. Donc,
et puis ils en tapent des centaines, des milliers, des centaines de milliers. Donc c'est oui, tu sens que ton cordage a pris une nuit, qui s'est un petit peu détendu. Oui, tu le sens.
D'où la préférence d'Arthur, où il souhaite que lui, ce soit le soir. Et puis d'autres joueurs vont te demander à ce que ce soit cordé le matin.
Désolé, encore un petit problème technique.
Ah, mais ça, c'est clairement Ferrand, ça. Hein. C'est très mal desservi.
Tant que c'est des problèmes de reportite et pas de machine à corder, c'est mieux pour vous.
Mais est-ce qu'il y a un garçon qui se moque un peu, qui n'est pas trop à l'écoute? Vous lui diriez qu'elle est à 24 alors qu'elle est à 23, qu'il ne s'en rendrait pas compte? Non, c'est impossible. Il y en a peut-être quand même, hein, j'ai l'impression.
Non, alors oui, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à ça. Oui, après, honnêtement, je crois que ça m'est arrivé une fois sur un... Il y avait un souci sur une tension, pareil, et le joueur nous avait demandé, c'est bien là, parce qu'il n'y a pas l'étiquette. Vous savez, on met des étiquettes sur les, sur chaque raquette en fait. Donc on indique la tension, on indique la date, ça c'est un repère aussi pour le joueur. Et il y avait une inversion, je crois, il y avait c'est d'un kilo d'écart et tout ça. Après voilà, bon, c'est des choses où il y a une petite... Est-ce que le cordeur il a émis 23 ou au lieu de 24 ou 24 au lieu de 23? Ben, le cordeur m'avait dit que c'était bon, c'était comme ce qui était écrit, mais pas sur l'étiquette. Bon, ça, c'est le cordeur qui m'avait dit ça. Donc, moi, le joueur m'avait dit, bon, ben, c'est bon, il avait essayé, il était revenu, il avait dit pareil, donc il n'y avait pas eu de souci, c'était bien bon. Donc, est-ce que, tu vois, est-ce que vraiment, il s'en était rendu compte ou pas? Est-ce qu'il y avait eu une différence? Est-ce qu'il n'y avait pas eu de différence? Il y en a qui sont hyper méticuleux, il y a des joueurs qui ressentent un petit peu moins, quoi.
Mais après, à vous entendre, Zverev, c'est le, tout en haut du podium, là.
Zverev, non, mais oui, j'ai... On n'a jamais eu de joueurs aussi pointilleux, vraiment à changer pendant l'entraînement. Il restait 2 heures à l'entraînement. Moi, je lui cordais 4-5 raquettes. Et à chaque fois, j'avais un coup de fil. Bah, faut mettre point 1, faut mettre point 3, faut mettre point 2.
Moi, j'avais eu Dimitrov, chercher ses réglages, quoi. Dimitrov à Marseille, où justement, il m'avait demandé à ce que il y avait 6 raquettes. Et il me demandait à ce que les raquettes soient. Que je commence à corder les raquettes à 19h. Et donc. C'était un travail très méticuleux parce que donc déjà il y avait du boyau, il y avait du monofilament. Il souhaitait que le nœud soit effectué à tel endroit de la raquette, que le logo soit fait à l'envers. Donc,
Là, sur une certaine traverse ou entre les deux traverses, entre la cinquième et la quatrième.
Exactement. Et donc, cordé la veille. Et donc, 6 raquettes, tu les attaques à 19h. Comme c'est quand même un travail assez technique, t'as à peu près 2 heures de travail. Quoi.
Alors, votre corps du monde de vitesse, de cordage, on l'a.
Ah,
faites des concours entre vous là.
Stéphane Kranowski reste la légende. Il est à 8,36 à Londres et moi je dois être à 10 minutes. Hein.
8,36.
Ouais. Bah après c'est. Ouais. Bah après il y a des raquettes. Attention, il y a des raquettes.
Usain Bolt de la raquette.
Ouais, mais il y a des raquettes à record. Attention.
C'est-à-dire. Après,
t'as des raquettes qui vont bien, t'as des cordages qui vont bien, qui glissent bien aussi. Donc en toute modestie, j'avais une raquette qui était assez. C'était la raquette de David Ferrer, quand même. Attention, raquette match, quand même.
Exactement.
Il était en entraînement au Master de Londres. Il était 9e, je crois qu'il était remplaçant. Et il demande une raquette vite fait parce qu'il venait d'arriver, il avait un entraînement. Et nous, à l'époque, on faisait un petit peu d'animation aussi avec le service cordage en public, justement, pour attirer le public et tout ça. Et on faisait on avait un chronomètre. Et donc, on s'est dit, allez, feu, on tente le record. Et voilà quoi. Donc
et là, on avait 200, 300 personnes qui nous regardaient en train de corder.
Et on faisait la battle quoi. Max, voilà. Steph.
Et là, il vaut mieux pas effectuer d'erreur.
Et Max, il restait dans le rétro. Il avait 3-4 travers derrière.
Il était chambre.
C'est ce que je t'ai expliqué, Eric, tout à l'heure.
Mais dites-moi, les gars, au niveau des doigts, vous avez des doigts en béton ou quoi? Parce que ça doit être assez traumatisant, non?
Il faut mettre de la crème le soir, bien s'hydrater.
Manucure et tout.
Même si on a l'expérience, mais quand on fait le tournoi de Miami et que derrière on enchaîne avec Monte Carlo, c'est vrai que les doigts souffrent. Donc, il faut mettre de la crème, il faut prendre soin de ses doigts. C'est notre outil de travail, de toute façon. Donc,
Là, tu vois, moi, ça fait quoi maintenant, Monte Carlo? Ça fait 10 jours, à peu près, qu'on est rentré. Et là, j'ai les doigts qui commencent à peler, en fait. Tu vois, c'est ma double peau qui arrive, comme les lézards, quoi.
Moi, il y a une année, je mettais des gants le soir pour avec de la crème pour hydrater la peau, quoi.
Des gants remplis de vaseline.
Exactement.
Des gants chirurgicaux remplis de vaseline,
Ah, vous nous faites rêver, les gars.
Et attends, on a encore une petite anecdote si tu veux. D'ailleurs, Steph, celle-ci elle est quand même incroyable. On a eu la chance de corder le Masters de Londres
pendant
7-8 ans. Et on a avec Daniel, on a gagné le Masters l'année du Covid.
Ouais. On dit on, hein, t'as vu, on non, est là, on bon. Est parce que.
C'est eux. Donc tout le monde était confiné.
Comme tu disais, Sarah, on est dans l'équipe, quoi, tu vois.
Tout le monde était confiné et nous, les deux Français, on est partis à Londres en Eurostar. On est arrivé comme des rockstars. Il y avait les voitures officielles, tout. On passait les tests PCR.
Dans la bulle.
On était à l'hôtel Intercontinental. C'était exceptionnel parce que tu te lèves le matin, tu croises Rafa, tu croises Novak, tu croises Stan. Et voilà. Et cette année-là, c'est Daniel qui gagne le tournoi.
Ouais, c'est vrai.
Il gagne 1, 2, 3, je crois. Il joue les 3, il gagne. Il fait un tournoi de malade.
Et donc, et le soir, vas-y, Steph, je te laisse finir.
Oui, parce que c'est vrai que c'était un moment. Après, c'était magique. Bon, après, voilà, nous, c'est sympa, mais bon, on doit démonter notre stand aussi, tu vois, comme on disait tout à l'heure, envoyer les machines, préparer tout ça. Donc, bon, entre deux coupes de champagne avec le staff, on finit à 2h du matin à peu près. Et dans les allées de l'Intercontinental, on entend du bruit et tout. Ça crie et tout ça. Je dis qu'est-ce que c'est? Et là, on arrive, Daniil, qui venait de gagner le tournoi, en fait, était en train, sur un simulateur de Formule 1, en train de faire le Grand Prix de Monte Carlo, de Monaco.
À 2h30 du matin.
Et il était là. Bon, on s'est mis à côté, il y avait 3 simulateurs, on s'est mis à côté. Et voilà, on a fait un peu les courses avec et tout, on a rigolé. Voilà, je dis à chaque fois, je suis dans le bac à sable. Daniil, il me dit non, mais c'est comme ça et tout, truc. Bon, c'était un moment magique, quoi. Je veux dire, c'était.
Ça, c'est des moments uniques.
C'était un bon moment, quoi.
Et on sent que vous adorez votre métier, les gars. Eh ben, écoutez, les gars, merci beaucoup. C'était un plaisir. On aurait pu rester des heures avec vous et on vous retrouvera avec grand plaisir sur le circuit. On voit que vous avez la confiance de tous les meilleurs joueurs du monde. Et Max, si tu cordes Arthur Fils à Roland.
Ah, le but, c'est de l'emmener au bout. Hein. Hein,
parce que là, ce serait génial que Arthur puisse vous emmener tout là-haut.
Exactement.
Merci, Sarah. Merci Sarah.
Merci les garçons, c'était super intéressant.
Merci Sarah.
Merci Sarah, merci Eric.
Ça méritera à la fin de votre carrière, ça méritera un livre hein, quand même. Hein, avec toutes
on nous en parle des fois.
Exactement, on en parle de plus en plus.
Mais je crois qu'ils peuvent pas tout dire, Sarah. Il y a encore des petits.
Allez, je donne un dernier petit scoop. Allez, cette année, j'ai cordé la raquette du prince de Monaco.
Oh, extraordinaire. Oh là
là. Je relance les carrières.
Son Altesse.
Il tend à combien, le prince?
On l'a mis à 22.
Parfait. Merci encore. C'était
merci
super sympa.
C'est
un angle différent, mais ça fait partie du d'avis du circuit du tennis. Sans eux, il n'y aurait pas de circuit, il n'y aurait pas de raquette, il n'y aurait pas d'exploit sur les terres battues de la Porte d'Auteuil, de la Cara Magica, du Country Club de Monte Carlo. Merci encore et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Cours numéro 1.
RMC, Cours numéro 1.